Bonsoir à tous, vous suivez les programmes du studio Kalangou, il est 18h, l'heure du journal avec Rouquet Top Drama. À la une, interdiction par la ville de Niamey du meeting prévu ce matin de la société civile selon elle pour dénoncer l'injustice et la corruption au Niger. Les responsables du cadre de concertation de cette société civile assignent l'état du Niger en justice. Libération hier soir de 4 otages par les groupes djihadistes dont l'opposant malien Soumaïla Cissé et le missionnaire italien Pierre Ligui Makali enlevé au Niger depuis 2018. Soumaïla Cissé à suivre dans ce journal. La gestion des déchets dans les hôpitaux de Gaya, région de Dosso, on en parle dans la partie magazine de cette édition. Ce matin, les responsables du cadre de concertation de la société civile ont déposé une plainte au tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre la ville de Niamey et l'État du Niger. Selon Ali Idrissa, l'un des leaders de la société civile, cette plainte fait suite à la décision de la ville de Niamey interdisant le meeting prévu aujourd'hui pour dénoncer l'injustice et la corruption. Ali Idrissa au micro de Mokhtar Hamadou.
Notre manifestation prévue ce jour contre la corruption, contre l'impunité, contre l'injustice dans notre pays a été interdite par les autorités de la communauté urbaine de Niamey et que nous avions décidé à partir de cela porter plainte ce jour au tribunal contre ces autorités qui nous empêchent d'exercer un droit constitutionnel qui est le droit de manifestation. Maintenant, ce sont des responsabilités individuelles qui s'opposent. Aussi, plus loin, porter plainte contre l'État du Niger pour nous avoir empêché la dernière fois de pouvoir avoir accès à une justice. Aujourd'hui, on a des difficultés d'accès à la justice. C'est ça d'abord qu'on veut soulever pour qu'on puisse pouvoir finir avec ça d'abord et pouvoir aller en référé. La dernière fois, on l'a essayé. Il était impossible de joindre parmi les 3 vice-présidents pour pouvoir nous rendre justice.
Soumaïla Cissé, l'opposant malien et 3 autres personnes dont l'humanitaire Sophie Petronin et le missionnaire italien Pierre Ligui Makali, enlevés au Niger en 2018, ont été libérés hier soir. Les 4 ex-otages qui étaient aux mains des groupes djihadistes ont été reçus par le président de la transition malienne peu de temps après leur arrivée à Bamako tard dans la soirée. Soumaïla Cissé, que nous vous proposons d'écouter.
Je suis très heureux d'être là. J'ai passé 6 mois dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier les nouvelles autorités maliennes. Elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace, a réagi très rapidement et a été diligent. Et dès le lundi 5 octobre, nous avons été informés que nous sommes libres. Il y a des délais liés au protocole, à la sécurité, pour préserver la vie des otages. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas venus plus tôt.
Vous venez là d'écouter des propos de Soumaïla Cissé, l'opposant malien recueilli par nos confrères du studio Tamani depuis Bamako au Mali. Le studio Tamani et tous les médias de la Fondation Hirondelle en deuil ce matin. Le studio Kalangou a appris le décès du rédacteur en chef du studio Tamani à Bamako au Mali. Issaka Fakaba Sissoko a intégré le projet depuis sa création en 2013. Il a été respectueux des valeurs du journalisme jusqu'à sa mort, nous a dit Sekou Gadjigo, un de ses collaborateurs joint au téléphone par Olivier Assogbavi.
Cette disparition, pour nous, c'est une perte incommensurable. Je dis bien incommensurable parce que Issaka Fakaba Sissoko, rédacteur en chef du studio Tamani, jusqu'à son décès survenu hier, laisse un grand vide à studio Tamani. Dans toutes ses fonctions, Issaka Fakaba a fait montre des qualités d'un journaliste remarquable. Les valeurs qui incarnent un bon journaliste, toujours avec en bandoulière l'éthique et la déontologie, Issaka Fakaba ne transigeait pas sur le respect de ces valeurs-là. Il était toujours disponible également pour ses collaborateurs.
À sa famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. Que l'âme du disparu repose en paix. Amen. La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce jour 9 octobre. À cette occasion, le psychiatre Abou Yahya, coordonnateur du Programme mondial de la santé mentale, nous définit ce qu'est la santé mentale dans le contexte nigérien et les actions que son service mène. Il est joint au téléphone par Talat Abdou Bahar.
La santé mentale, c'est la spécialité qui prend en compte la prévention, les soins curatifs et le suivi des malades qui souffrent des troubles mentaux, qui souffrent de l'abus des substances psychoactives. Donc, on prend en charge tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui est trouble de personnalité et tout ce qui est abus ou consommation de drogue et l'épilepsie. Et aussi le soutien psychosocial des populations vulnérables. En marge de cette journée mondiale, il y a le programme national de santé mental en collaboration avec certaines ONG, donc COPI, qui interviennent au Niger. On est sur le terrain des sites des relogés pour leur apporter le soutien psychosocial nécessaire.
Être chez soi, une famille, un toit, l'école pour les enfants, ce sont là les préoccupations des sinistrés du quartier de Kirkisoy de Niamey, délogés par les eaux de pluie et les débordements du fleuve qui ont été logés dans une école du quartier. C'est bientôt la rentrée des classes et ils doivent de nouveau être relogés. Des propos recueillis par Olivia Sokbavi à la veille de leur départ dans un camp de relogement.
On veut retourner chez nous, mais nos anciennes maisons sont inhabitables. Il n'y a que du sable. Vraiment, si un pauvre peut avoir son ancienne maison, c'est mieux pour lui. Il paraît que les habitats construits pour nous sont meilleurs que là où nous nous trouvons.
Je travaille dans une pâtisserie. Quelle robe mettre même pour aller au boulot? On m'a déjà remplacé par quelqu'un d'autre à cause de ça. Ici, les gens font la queue pour aller aux toilettes. Tu peux faire toute une journée sans te laver. Là-bas, c'est mieux pour nous, car c'est une famille et un toit. Mais ici, c'est 20 personnes dans une même classe. On parle de distanciation d'un mètre. Quel genre de vie allons-nous mener?
Tous les enseignants doivent être à leur poste une semaine avant la rentrée scolaire, a déclaré le préfet du département de Baleyara. Il a réuni mercredi tous les acteurs de l'école de la localité pour attirer l'attention des enseignants et des parents d'élèves sur le respect des gestes barrières de la COVID-19. Amadou Hamidou est au micro de Saïd Windi Abdoutan.
J'ai attiré un peu leur attention que les directeurs d'école doivent être à leur poste deux semaines avant et les enseignants une semaine avant pour bien préparer la rentrée. Et le 15 là, ou bien le 16 au plus tard, normalement l'école doit démarrer. En dehors de ça, j'ai attiré leur attention sur le virus de COVID-19. Je leur ai dit que le port des bavettes est obligatoire. Ils doivent, en tant que parents d'élèves, en tant que responsables, prendre les dispositions pour que à la rentrée, les enfants portent les bavettes à l'école, le personnel auxiliaire, le personnel administratif. J'ai invité le médecin-chef, il a profité pour leur brosser la situation de la maladie, il a profité pour leur dire l'importance des mesures barrières afin d'éviter à la maladie de se propager dans notre département.
À la date du 8 septembre, plus de 4000 hectares de culture dont des champs de tomates ont été inondés par les fortes précipitations enregistrées au mois d'août dans le département de Wallam, région de Tillabéri. Et selon Amadou Bouhari, le directeur départemental de l'agriculture, 150 mètres d'hectares sont infestés par des insectes floricoles. Il est au micro d'Ilias Soumende.
Nous avions enregistré 4150 hectares qui sont inondés, c'est-à-dire les milles, sorgho, niébé, arachide et même les cultures irriguées. Comme ici à Wallam, on fait les cultures irriguées en période d'hivernage, notamment la tomate. Et malheureusement, au moment même où la tomate était en début maturation, vraiment l'inondation qui venait tout remettre en cause. Nous sommes en train de mener des sensibilisations au niveau des producteurs pour éviter les lits de vallée pour la pratique de cultures irriguées en période d'hivernage. Maintenant, par rapport à la situation phytosanitaire, elle est relativement calme dans l'ensemble du département. Néanmoins, il y a eu des déclarations tout récemment de la commune de Simiri et de la commune de Tondukundu où nous avions eu des déclarations des insectes floricoles, une superficie de 150 hectares infestés. Il y a eu 80 hectares déjà qui sont traités et le traitement est en cours.
Plus d'une centaine d'hectares de pâturage brûlés suite à un feu de brousse qui s'est déclaré hier aux environs de 16 heures dans le village d'Injingran, situé à 70 km de la commune rurale d'Ingal, région d'Agadez. Aminou Moussa Tangam, le préfet du dit département, joint au téléphone par notre correspondant Moussa Mamman, explique les circonstances de l'incendie.
Hier, vers 16h, on a été appelé. Notre lundi, j'ai garanti un feu de brousse là, c'était déclenché. Ça a fait quand même beaucoup de dégâts. C'est quelques centaines d'hectares consumés. D'après ce qui nous a été rapporté, c'est des gens au bord d'un ulix là qui étaient restés prendre du thé, des passants pour continuer leur voyage. Donc c'est eux qui étaient à la base. Les communautés vraiment se sont mobilisées beaucoup. Le FDS, la patrie à côté, la gendarmerie d'Amtaltal, ils ont fait un travail vraiment intense. Moi-même, j'étais sur le terrain. Donc, le fait a été maîtrisé. Les conséquences sont que déjà, le service de l'élevage est en train d'évaluer les pâturages, le fourrage qui est produit cette année, et que d'après le sondage, que vraiment ça a très bien donné, mais si ça continue, ça va quand même diminuer ce pâturage-là. J'attire l'attention des passants, c'est que c'est vraiment criminel.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition, chaque jour, les hôpitaux produisent des déchets ménagers infectieux ou non, touchants et piquants, pouvant contenir des matières dangereuses, d'où la nécessité d'une bonne gestion de ces déchets pour éviter la propagation des maladies. Ali Adamou, directeur de la police sanitaire et responsable du service hygiène et assainissement au district sanitaire de Gaya, explique la situation dans les hôpitaux de Gaya. Il est interrogé par Fadel Alou.
L'hygiène, c'est primordial. C'est la base de la santé. Sans l'hygiène, il n'y a pas la santé. Et donc, il y a différentes sortes de poubelles que nous déposons pour qu'on puisse mettre les déchets ménagers, les déchets infectieux et autres. Il y a des poubelles fermées à pédale. Il y a des poubelles qui sont ouvertes pour les emballages, pour les autres. Après, on met dans une grande poubelle dehors que chaque jour, le technicien de surface le manœuvre. Il amène, il verse. Il y a encore des déchets qui sont tranchants, piquants. Les aiguilles et les seringues. On met ça dans des boîtes de sécurité en carton. Même les lames de fusil, on les met là.
Les déchets tranchants, piquants restent seulement dans les cartons ou vous avez d'autres moyens pour les éliminer?
Là où il y a les brûleurs, les aiguilles, les trucs tranchants là, on les met, on les brûle dans les brûleurs. Là où il n'y a pas de brûleur, on creuse une fosse, on met ça là-dedans, on brûle. Et quand ça se remplit, on ferme, on creuse encore un autre.
Comment se fait l'assainissement de l'entourage et l'intérieur des centres de santé?
Nous avons des techniciens de surface, c'est eux qui s'occupent de ça. Nous avons des filles de salle, et ce sont les filles de salle qui s'occupent de l'intérieur pour le nettoyage. Et en tout cas, dans le département de Gaya, ça fait pas longtemps que j'ai fait le tour. Sérieusement, il n'y a aucun problème.
Quelles sont vos suggestions et recommandations pour une bonne hygiène dans les hôpitaux?
La réponse, c'est quoi? L'hygiène, ce n'est pas une seule personne. C'est tout le monde. Tous les services là que vous voyez dans les hôpitaux doivent s'occuper de l'hygiène de leur unité. En attendant que le technicien d'hygiène vienne vérifier, on fait ça. Nous n'allons pas avoir de problème.
Fin de ce journal. À suivre votre rendez-vous hebdomadaire, le Forum de la presse avec Michel Deji.
Studio Kalangou.
Suivez les programmes du Studio Kalangou
à Niamey
sur la radio alternative 99.4 MHz, sur la radio Amfani 100 MHz, sur la radio Scout 90.9 MHz, sur la radio Challenge 96.6 MHz.
Studio Kalangou.